la une des quatre colonnes, la chronique qui décrypte l'actu sur Radio Imo.
Canicule, ma prime rénov, ZAN, ZFE. Gérard Leseul, député PS de la Seine-Maritime, interpelle le gouvernement. Dans un contexte où les températures ont atteint ce mardi entre 33 et 36 degrés dans une grande partie de l'Hexagone, notamment dans l'Ouest, soit 10 à 15 degrés au-dessus des normales de saison, le député socialiste Gérard Leseul a interpellé aux questions au gouvernement Monique Barbu, ministre de la Transition écologique et de la Biodiversité. L'objectif est de rappeler à l'exécutif les effets du dôme de chaleur sur les personnes vulnérables et notre économie. Il faut plus de sobriété, renforcer la transition énergétique du bâti et des mobilités, a-t-il insisté. C'est l'occasion pour lui de faire part de son inquiétude auprès de Monique Barbu et non pas de Vincent Jeanbrun sur ma prime rénov, restreint aux plus modestes en septembre et suspendu en janvier faute de loi de finances. Le dispositif a effectivement pu rouvrir pour tous les ménages après l'adoption définitive du budget 2026 de l'État selon la promesse de Lecornu. De son côté, Monique Barbu a reconnu que la principale adaptation va se passer dans le logement. Et c'est pourquoi, en 2026, le gouvernement maintient le même budget de l'Agence nationale de l'habitat, l'ANA, à hauteur de 3,5 milliards d'euros, soit le même qu'en 2025. Écoutons Gérard Leseul sur la suppression des ZFE et du ZAN, zéro artificialisation nette des sols, quelques jours après la décision récente du Conseil constitutionnel.
Alors, je ne suis pas satisfait de la réponse de Monique Barbu. Je n'attendais pas d'ailleurs spécialement une réponse de sa part. J'ai interpellé l'ensemble des ministres et le Premier ministre en premier chef sur la politique du gouvernement en matière de transition énergétique, en matière d'adaptation au changement climatique et des mesures d'urgence qu'il prenait ou qu'il ne prenait pas eu égard à la canicule actuelle qui touche notamment les plus vulnérables d'entre nous. Et donc, c'est la ministre Barbu qui a souhaité me répondre, contact, mais finalement ma question, elle était plus globale. Moi, j'attendais de sa part un peu plus de compréhension de la situation et un peu plus de combativité de sa part, non pas vis-à-vis du Parlement, mais vis-à-vis du gouvernement, pour mettre le gouvernement en mouvement sur les réponses qu'il convient d'apporter au changement climatique. On le sait bien, la crise ou le réchauffement auquel nous assistons, certes c'est un pic, mais c'est un pic qui revient très souvent. Et donc, il faut que nous ayons une politique d'adaptation au changement climatique qui soit cohérente et conséquente. C'est-à-dire que l'on cesse des stop and go, vous le savez, sur ma prime rénov, par exemple. Il y a eu un arrêt au mois de janvier, on a repris fin février, on a réduit globalement l'éligibilité des travaux à ma prime rénov, et il y a encore 83 000 dossiers qui étaient au 31 décembre en cours d'examen. Je ne sais pas où on en est aujourd'hui. Je n'ai pas eu de réponse d'ailleurs de la part de Madame Barbu, mais c'était peut-être à Monsieur Jeanbrun de me répondre. Enfin, vous voyez, donc moi je vais poser une question d'actualité suite à la crise climatique que nous vivons, que nos concitoyens vivent. Madame Barbu a souhaité me répondre. Sa réponse était très insatisfaisante pour ma part, puisqu'elle n'a fait preuve d'aucune combativité sur le sujet. Elle m'a dit, et elle a répondu à deux autres questions qui étaient à peu près sur le même sujet un peu plus tard, en gros, on n'y peut pas grand-chose, il faudrait que tous les pays du monde s'unissent pour lutter contre le réchauffement climatique. Je suis désolé, mais ce n'est pas du niveau d'un ministre d'un gouvernement.
Donc vous allez donc interpeller le ministre Jeanbrun et lui faire part de votre principale inquiétude sur ma prime rénov et sur la gestion et sur et les prochaines échéances sur le sujet.
Bien sûr, je n'aurai pas l'occasion de poser une question au gouvernement demain parce que nous avons un tour de parole entre les différents collègues, mais j'essaierai effectivement de l'interpeller dans les couloirs avant ou après les QAG de demain. J'ai d'ailleurs quelques dossiers particuliers personnels à lui remettre puisque chaque semaine je reçois des gens dans ma permanence qui me disent j'ai fait des travaux en 2025, j'ai fait le dossier, j'ai tout remis et j'attends encore 30 000, 36 000, enfin j'attends le verre versement finalement de la prime qui m'était promise, ce qui met souvent les gens dans une situation de trésorerie délicate. Donc oui, sur cette question-là, j'irai bien sûr interpeller le ministre du Logement.
Quelle serait d'après vous la meilleure solution pour régler ce problème d'usine à gaz de ma prime rénov'?
Bah, je pense que là, très honnêtement, c'est une question de moyens. Alors peut-être faut-il simplifier les dossiers, peut-être faut-il avoir davantage de délégation de l'examen des dossiers, mais c'est une question de moyens supplémentaires. Que ce soit sur ce sujet ou sur d'autres, on voit bien que quand il y a une embolie dans la gestion des dossiers, c'est parce que le dossier est trop compliqué ou qu'il n'y a pas assez de monde pour le traiter. Donc oui, là je pense qu'il faut un renforcement des moyens sur MaPrimeRénov.
Pour autant, il y a eu des efforts de l'ANAH, hein, de l'Agence Nationale de l'Habitat.
Bien sûr, il y a eu des efforts, mais visiblement les efforts, à ma connaissance, à ce jour, ne sont pas suffisants, puisque je n'ai pas de réponse sur mes 83 000 dossiers qui sont en attente. Alors si on me dit demain, si le ministre me dit, monsieur le député, vous n'êtes pas sérieux, il n'y a qu'une centaine de dossiers, pas de pot, ça tombe sur vous, bah, je vérifierai, mais je pourrais encore admettre. Mais en tout cas, ce n'est pas le sentiment que j'ai, si vous voulez. Donc j'ai une méfiance sur ce sujet-là, et je pense qu'il faut un renforcement des moyens globaux sur la gestion de MaPrimeRénov.
Est-ce que vous êtes unanime au sein de l'hémicycle sur ce sujet ? Est-ce que vous sentez qu'il n'y a pas de division ?
Écoutez, ce qui est assez symptomatique, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui ont posé des questions sur la question du réchauffement climatique et de l'incidence pour nos concitoyens sont plutôt les groupes de gauche et écologistes. Donc on voit bien qu'il y a une sensibilité particulière que j'exprime à votre micro. Mais je pense que très sincèrement, si nous discutons avec nos collègues des autres bancs, ils auront à peu près le même point de vue. Alors, je mets de côté les climato-sceptiques, tous ceux qui veulent supprimer les agences, l'ADEME, etc., qui ne proposent d'ailleurs aucune solution. Mais globalement, pour l'ensemble des forces politiques de bonne volonté, oui, il y a un relatif consensus pour dire qu'il faut agir. Il y a très peu maintenant, quand même, de climato-sceptiques. Donc, si on n'est pas climato-sceptique, il faut trouver les voies et moyens pour accélérer cette adaptation au changement climatique. Et puis, il faut, en adaptant à la fois notre bâti, il faut lutter aussi pour continuer avec les mobilités lourdes de les effets enfin les gaz à effet de serre, et donc il faut que nous puissions réduire l'ensemble des énergies carbonées sur nos mobilités et sur le bâti. Mobilité et bâti, ça fait à peu près 60% des émissions de gaz à effet de serre. Hein. Donc nous avons un gros chantier sur le sujet. Et j'entends que le gouvernement parle d'électrification des usages. L'électrification, j'y suis favorable, mais ça ne suffit pas.
Justement, pouvoir faire la transition en parlant de mobilité, le Conseil constitutionnel a donné a rendu sa position sur les ZFE, également sur le ZAN. Êtes-vous maintenant conquis de ces décisions ?
Alors très très honnêtement, ayant été un des rédacteurs du recours au Conseil constitutionnel sur beaucoup d'articles, je dois dire que nous avons obtenu gain de cause auprès du Conseil constitutionnel, puisque entre 25 et 30% des textes ont été annulés par le Conseil. Le Conseil constitutionnel ne s'est pas prononcé sur le fond. Il ne se prononce pas sur le fond du ZAN, il ne se prononce pas sur le fond des ZFE, il ne se prononce pas sur le bien fondé de l'existence des Césaires. Il s'est prononcé sur la procédure, hein, sur l'article 45 de la Constitution et sur le cavalier législatif. Et donc, moi je regrette, et je l'avais dit en commission mixte paritaire, dans l'hémicycle, nous avons fait de la mauvaise loi. Mais le gouvernement, c'est sa responsabilité, c'était un projet de loi. Le gouvernement aurait dû maîtriser le dossier, refuser des tas d'amendements qui n'avaient rien à voir avec l'objet premier qui est la simplification de la vie économique. Et donc, oui, tout ce qui était annexe, eh bien, a été retoqué par le Conseil constitutionnel. Il appartient maintenant au gouvernement, sur le ZAN comme sur les ZFE ou sur d'autres sujets, de redéposer un texte de loi ayant réellement cet objectif dans son texte et qui puisse faire l'objet d'une évaluation, d'une étude d'impact par le Conseil d'État, parce que les ZFE sont arrivés par amendement à l'Assemblée nationale, n'ont même pas été discutés au Sénat et pas d'étude d'impact. C'est pas sérieux. Donc on peut pas faire de la loi comme ça. Donc, moi je ne me prononce pas là dans notre discussion sur le bien fondé de la décision du Conseil constitutionnel. Il a jugé en droit, il a eu raison de juger en droit. Nous devons faire de la bonne législation.
sur le sujet du ZAN, est-ce que d'après vous, le Sénat va pouvoir reprendre la main? Eux, ils comptaient beaucoup sur la loi Trace. Est-ce que vous les rejoignez? Qu'est-ce que vous, en fait, vous oppose un peu de l'Assemblée au Sénat sur le sujet du ZAN?
Je pense, vous avez raison, que le Sénat tentera de reprendre la main avec la loi Trace. Il tentera de nouveau des aménagements, des exonérations, des assouplissements aux zéro artificialisation nette. Je suis tout à fait conscient que de nombreuses collectivités locales aussi souhaitent qu'il y ait un peu d'assouplissement. Je suis issu d'un territoire semi-rural et très industriel.
Donc ça, vous le comprenez.
Bien sûr, je le comprends. Et parfois, d'ailleurs, dans toutes nos friches industrielles, je souhaite qu'elles restent industriels, que leur vocation reste. Donc nous avons bien sûr à réfléchir intelligemment sur le ZAN, mais pas comme ça a été fait au détour d'une discussion, d'un couloir, ou parce qu'on avait à un moment donné une majorité dans la commission, où on a fait adopter finalement assez facilement des dispositions trop exonérantes de l'objectif de zéro artificialisation nette. Et c'est ce que je vous disais aussi à propos de la gestion climatique du gouvernement, c'est qu'il faut de la cohérence. Si nous voulons agir efficacement, il faut agir sur du moyen, long terme. Or, on ne peut pas régulièrement remettre en cause le ZAN ou toutes les politiques qui ont besoin de temps pour trouver leur cohérence sur le terrain. Parce que pour les élus locaux, c'est pas possible d'avoir à chaque fois des règles qui changent. Donc il faut leur donner de la permanence dans notre corpus législatif.
Très attendu, la décision du Conseil constitutionnel a mis fin à l'un des épisodes les plus sensibles du texte porté par le gouvernement. Introduite à l'Assemblée nationale par les amendements des Républicains et du RN, la suppression des ZFE ne figurait pas dans la version initiale du projet de loi. Les sages ont alors considéré que cette mesure constitue un cavalier législatif, c'est-à-dire une disposition sans lien suffisant, même indirect, avec l'objet du texte examiné, conformément à l'article 45 de la Constitution. Un autre point sensible du texte, le zéro artificialisation nette des sols, l'objectif destiné à limiter le bétonnage des sols d'ici à 2050. Là encore, le Conseil constitutionnel a estimé que cette mesure relevait du cavalier législatif, faute de lien suffisant avec le projet de loi initial. Avec cette décision, les sages ouvrent désormais la voie à la promulgation de la loi, amputée d'une partie de ses mesures les plus contestées.
À la une des quatre colonnes, la chronique qui décrypte l'actu sur Radio Immo.